Journal avec MCM, présenté par Antoine Samoyo.
Bonjour Antoine, et on commence par les titres que vous développerez aujourd'hui.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Une cinquantaine de militants de l'association 193 occupent actuellement pacifiquement l'espace du monument aux morts situé devant le Haut Commissariat depuis ce matin. Des manifestants qui font notamment signer la pétition demandant la mise en place d'un référendum sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Un câble à fibre optique sous-marin à 8,9 milliards de francs construit pour connecter la Polynésie à Hawaï. Ça, c'était en 2009. 7 ans plus tard, 10 personnes comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Papeete pour favoritisme dans l'attribution de ce même marché. Parmi eux, Émile Vernodon, Georges Puchon ou encore Jean-Alain Frébeau et Jean-Paul Barral. Nous parlerons également en FIFO ce midi avec l'arrivée ce week-end du réalisateur et président du jury cette année, Abderrahmane Sissako. Valentine Bluel a rencontré ce matin, vous l'entendrez tout à l'heure. Et enfin, avis aux passionnés de mécanique et aux amoureux de la nature, Cédric Valax a testé la première moto 100% électrique au Fénois. Il viendra nous donner ses impressions en studio ce midi. À tout de suite.
On démarre avec ce rassemblement annoncé de l'association 193 ce matin.
Une cinquantaine de membres de l'association de victimes du nucléaire distribuent des tracts et font signer leur pétition depuis ce matin. Ils demandent depuis plusieurs semaines la mise en place d'un référendum sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Le père Auguste Webe-Carlson, président de l'association, affirme qu'en moins de 3 semaines, les sociétaires ont réussi à rassembler plus de 23 000 signatures pour la pétition. Ceci grâce au travail de terrain et aux actions de sensibilisation comme celle de ce matin. Des actions qui interviennent à quelques jours de la venue de François Hollande en Polynésie, même si le père Webe-Carlson affirme qu'il ne tient pas compte de cette visite présidentielle, quoiqu'il ne voudrait pas non plus que l'action 293 passe inaperçue. On écoute le père Webe-Carlson au micro de Vaïté Urari Pambrin.
Débattre ou qui n'aime pas discuter, c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'avenir. Or, on a besoin de débattre et de discuter, de comprendre les choses, de donner son avis. Nos désirs, c'est de provoquer un débat.
Est-ce que vous allez préparer quelque chose pour la venue de Hollande?
Non, pas spécialement. Il vient en Polynésie française, donc il est chez lui. Et les Polynésiens ont une tradition de l'accueil. Mais en même temps, on ne voudrait pas qu'il rentre en France sans entendre parler de ces 23 000 personnes. Et encore, ce n'est pas fini. C'est une pétition que nous allons poursuivre jusqu'au 2 juillet de cette année. Donc on ne voudrait pas que le président rentre en France en disant « Ben voilà, c'est gentil, sympa, collier de fleurs, tifaifaï, la senteur des tiarés. » Non, nous, on ne veut pas qu'il garde cette image-là de nous. Et donc, je pense avec une tradition, on va dire, qui défend les petits, serait bien pour que, voilà. Et s'il a un petit créneau, même 5 minutes, on aimerait prendre pour dire en 5 minutes, en peu de mots, en peu de temps, ce qu'on a envie de lui dire.
Le nouveau président du CESC, Winnie Kissage, est venu à la rencontre des membres de l'association ce matin. Il a d'ailleurs signé la pétition en faveur de la mise en place d'un référendum au Fénois. Selon lui, le nucléaire est un dossier qui ne doit plus être tabou.
C'est un fait historique et il faut absolument que toute la population en prenne conscience. C'était peut-être trop vu comme un dossier politique. Savoir que dans la tête des gens, le nucléaire, c'était forcément l'indépendance et ces choses-là. Alors qu'au contraire, c'est un sujet de société. C'est notre histoire à nous, qui a un devoir de mémoire. C'est évident que, par exemple, pour les maladies radio-induites, on attend de la France un vrai soutien. Ce que je préconise, moi, c'est plutôt une vision plus constructive. Au-delà de ces choses-là, c'est que pendant longtemps, la France a utilisé notre pays pour créer un engin de guerre. J'aimerais que demain, la France utilise notre pays, bien maintenant, pour créer la vie, pour développer des technologies qui vont nous aider, nous, des technologies liées par exemple à tout ce qui est électricité, l'aquaculture, ce genre de choses. Et le discours que je tiens aujourd'hui avec l'État, c'est celui-là. Utilisez maintenant mon pays pour créer la vie, pour créer des choses qui vont servir à tous les pays du Pacifique, parce qu'il y a eu des essais aériens et nos cousins aux îles Cook et ailleurs ont eu des retombées. Donc par ce biais-là, si la France demain développait des choses qui peuvent servir aux autres pays de Polynésie, ça grandirait la France, ça grandirait l'Europe.
Et sachez que l'association a prévu une marche pacifique demain matin à 8h. Le cortège partira de la stèle de commémoration des essais au bas de l'avenue Pouvanaopa avant de se rendre à l'Assemblée, puis à la Présidence et enfin au Haut-Commissariat.
Justice à présent, le procès de l'affaire Renetoua s'est ouvert ce matin pour 1 semaine.
Effectivement, décidément pas 1 semaine sans que l'on ne parle affaire politico-financière au Fénois. 8 ans après la signature du marché de 8,9 milliards de francs passé entre l'Office des Postes et Télécommunications et la société Alcatel Submarine Networks pour la construction du câble Renetoua, 10 prévenus se sont présentés ce matin face au tribunal correctionnel de Papeete, 10 prévenus renvoyés pour favoritisme. Parmi eux, 3 anciens présidents du conseil d'administration de l'OPT, Alphonse Esther Hierro-Terrey, Jean-Alain Frébeau, pardon, et Jean-Paul Barral, mais aussi l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, Émile Vernodon, l'ex-conseiller spécial de l'OPT, également ancien ministre Georges Puchon, les deux anciens consultants de l'OPT, Jean-Claude Billy et Henri Savary, et enfin les deux ex-cadres d'Alcatel, Jean Godeluc et Georges Krebs, le dixième, prévenu, qui n'est autre que la personne morale Alcatel Submarine Networks, et tous sont accusés d'avoir participé ou de s'être rendus complices d'une atteinte aux règles de liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics passés pour la construction du seul câble qui permet aujourd'hui l'accès à Internet pour la Polynésie. Ce matin, il a fallu pas moins de 2 heures au président du tribunal pour résumer toute l'affaire. Le procès qui doit durer, je vous le rappelle, jusqu'à vendredi.
En bref, cet accident ce week-end à Toahotu.
Samedi soir, vers 20h30, dans la commune de la Presqu'île, une voiture qui roulait en direction de Papeete a dévié de sa trajectoire. Elle est venue percuter un autre véhicule dans lequel voyageaient les 4 membres d'une même famille. Le véhicule du chauffard a terminé sa course dans le fossé où il a pris feu et son conducteur, lui, a pris la fuite juste après l'accident. Les pompiers ont transporté les 4 occupants du second véhicule à l'hôpital. 2 d'entre eux sont blessés, un homme et son fils d'une dizaine d'années. Le chauffard s'est présenté lui-même à la gendarmerie dimanche matin.
On parle culture à présent avec le FIFO qui démarre officiellement demain.
Effectivement, mais les festivités du 13e Festival International du Film Documentaire Océanien ont bien débuté dès ce week-end. Le désormais traditionnel Festival OFF termine ce soir avec la projection du film aux 7 Césars Timbuktu du réalisateur Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako qui est le président du jury du FIFO cette année, il est arrivé samedi soir en Polynésie, déjà charmé, je cite, par la chaleur humaine extraordinaire et fantastique. Pour autant, le cinéaste n'arrive pas en terre inconnue, il connaissait déjà le FIFO avant d'arriver.
Oui, ça m'attire beaucoup. Je m'intéresse davantage au documentaire d'ailleurs qu'à la fiction en tant que spectateur. Hein. Et j'ai déjà réalisé un documentaire, je compte en faire. Et c'est important parce que d'abord, dans la forme ou plutôt dans les moyens à disposition pour faire un film, les moyens aujourd'hui démocratisent, disons en quelque sorte, l'expression. On peut facilement s'approprier une caméra, raconter quelque chose qui nous touche. Et ça, c'est important parce que le documentaire permet à se raconter et pas être raconté par les autres aussi que par les autres. Se raconter est quelque chose de très important.
Abderrahmane Sissako et les autres membres du jury qui auront la lourde tâche de choisir le meilleur film documentaire de cette 13e édition du FIFO, l'occasion de s'interroger sur ce qui fait un bon film documentaire.
Pour moi, un bon documentaire, un bon film, disons, c'est un film qui touche, c'est un film qui interpelle par les questions qu'il pose, c'est un film qui interpelle par la manière de poser les questions, de proposer, de les résoudre, pas forcément, mais en tout cas de poser les questions. Je crois qu'un bon documentaire, c'est celui qui nous interpelle sur notre quotidien, sur notre place dans la société aussi, à lutter, à défendre quelque chose. Je crois que c'est important. Un documentaire dans le sens aussi qu'il met en valeur les anonymes. Ça, c'est important. Et que le documentaire, justement, va à la recherche de l'anonyme. Que ça soit la petite vendeuse ou le petit vendeur du coin ou le pêcheur qui se bat désespérément parce qu'il y a un danger écologique ou que ça soit des grandes questions liées à l'environnement. Voilà. Donc, un documentaire, pour moi, il est important aussi dans ce sens. L'anonyme comme valeur.
Et sachez que la projection spéciale du film Timbuktu en présence d'Abderrahmane Sissako est à guichet fermé ce soir au Grand Théâtre. La deuxième salle du Petit Théâtre a également été ouverte pour satisfaire la demande.
Merci Antoine, il est midi 9 sur Radio 1. On marque une courte pause, le développement du reste de l'actu dans un court instant.
Radio 1, premier sur l'info.
On reprend pour évoquer la journée mondiale des lépreux, célébrée ce week-end à Orofara.
Et de la léproserie de Mahina, il ne reste aujourd'hui plus grand-chose. Quelques bâtiments délabrés, une vingtaine de maisons vétustes et 6 anciens lépreux arrivés à Orofara à l'époque où les maladies étaient parquées en raison des risques de contamination. Orofara est aujourd'hui une vallée presque comme les autres où vivent 28 familles, toutes descendantes de lépreux du village. Seulement voilà, les terres sur lesquelles a été construite la léproserie appartiennent toujours au pays. Une inquiétude pour les habitants qui craignent de devoir quitter Orofara une fois les derniers lépreux décédés. Et pour Titawa Manafenwaroa, la présidente de l'association Te Ui Taurea no Orofara, cette situation est une véritable épée de Damoclès.
Les maisons, elles ont 30 ans. On ne peut pas rénover parce qu'on n'est pas propriétaire. Donc c'est un terrain domanial. Donc c'est le pays qui gère. Mais sans l'accord du pays, on ne peut rien faire. Donc nous, ce qu'on aurait aimé, c'est avoir au moins l'aide de l'OPH en matériel. Après, l'association prendra en charge les rénovations s'il faut donner un coup de main. Il suffit que le matériel soit là, on le fait. Mais on ne peut pas. Ce que j'ai compris à un moment, c'est que tant que les derniers malades sont toujours là, on ne touchera pas le village. Mais j'ai bien l'impression que lorsqu'il n'y aura plus du tout de malades, je pense que les projets vont monter à feu, à grande vitesse, V, grand V. Enfin, c'est le ressenti que j'ai. Moi, je pense aux descendants de ces malades qui n'ont pas demandé à être là. On les a exilés parce qu'à cause de leur maladie, il y a combien d'années. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait leur vie là et ils ont eu des enfants. Les enfants ont eu des enfants. Donc, eux, ils vont aller où ?
Et en attendant que le pays bouge, les habitants continuent de vivre dans des maisons délabrées, construites il y a plusieurs dizaines d'années et qui pour certaines menacent de s'écrouler. Les intempéries dévastatrices du mois de décembre ne sont pas venues arranger les choses, bien au contraire. Maman Cécile a 76 ans, elle est la plus jeune des anciens lépreux du village. Elle confie aujourd'hui que les conditions de vie sont de plus en plus difficiles.
Faut améliorer, faut aménager un peu que ça soit. Hein. Et là aujourd'hui, au moins quand on renouvelle notre maison, c'est pourri la maison, c'est terminé, c'est tout ce qu'on demande. Hein? Au moins améliorer et aller de l'avant. Le président Edouard Fritsch, quand il est venu ici, il a dit comme ça, il ne faut pas s'inquiéter, on construit une maison. Et aujourd'hui, il dit c'est bon le truc, après hein, ça l'a là pour le truc.
Le Tavana de Marina Damasteura était présent hier pour passer la journée en compagnie des habitants du village d'Orofara. Il se veut rassurant, il indique qu'il fera tout pour ne pas dénaturer le site et faire en sorte qu'il conserve sa dimension historique. Il indique également que le pays étudie la possibilité de construire des logements neufs au-dessus du village pour y reloger les habitants de la vallée.
Le conseil municipal tient absolument à préserver cet endroit qui fait partie du patrimoine culturel de Marina aujourd'hui. Nous tenons vraiment absolument à garder un peu l'authenticité des maisons, l'authenticité du village et pourquoi pas faire un arrêt touristique. Orofara doit rester Orofara et nous mettons tout notre poids dans le conseil municipal pour garder ce village Orofara et notamment retaper toutes les 28 maisons. Donc nous pouvons constater que les maisons sont en piteux état, viennent subir les crues de décembre 2015, l'année dernière, et toutes les maisons doivent être rénovées dans leur totalité. On attend que le pays puisse aménager l'espace supérieur de Orofara, construire des logements provisoires, puis retaper toutes les maisons et les ramener sur le village d'Orofara.
Ce qu'il y a, c'est que ces terres appartiennent en effet ni à la commune, ni aux habitants, mais au pays. Alors est-ce qu'on peut avoir des garanties comme quoi cet espace sera préservé ?
En tout cas, Marina va poser tout son poids dans la balance pour préserver Orofara.
Voilà, vous aurez reconnu au micro et à l'orchestre Tamara Sentis. Reste que tous les habitants du village, ou presque, voient déjà sur le site d'Orofara les prémices d'une zone industrielle ou de lotissement de standing, là où pourtant réside un pan important de l'histoire de la Polynésie.
On parle environnement maintenant avec des motos 100% électriques aux Fénois.
C'est la révolution sur la route. Les motards aussi peuvent maintenant rouler écolo. Après la voiture, le monde du deux roues est lui aussi en train d'effectuer sa transition énergétique. Et à Tahiti, la marque américaine Zero fait ses premiers tours de roue. ZEM, l'importateur local de ces motos 100% électriques, propose dans son catalogue trois modèles fabriqués en Californie, dans la Silicon Valley. Un choix de marque mûri avec réflexion, puisque les modèles produits par Zero roulent depuis plusieurs années. Ceux importés en Polynésie bénéficient donc des dernières améliorations apportées à la gamme au fil du temps. Et tout comme pour les voitures, Teva Juventin, le directeur commercial représentant la marque au Fénois, ne voit que des avantages à rouler branché. Il est interrogé au micro de Cédric Valax.
Ça va apporter une sérénité côté après-vente. C'est-à-dire que on n'a plus de graisse, on n'a plus d'huile, on n'a plus de vidange à faire. Ça, c'est quand même l'aspect serein. Un autre gros avantage, c'est aussi l'économie. Sur une année, on avait fait une petite étude, on pouvait quand même économiser jusqu'à 100 000 francs par rapport à du carburant sur quelqu'un qui fait 10 000 km. Donc c'est quelqu'un qui roule beaucoup, celui qui commute tous les jours, par exemple. Les assureurs aussi ont joué le jeu. Donc on a des polices d'assurance bien moindres par rapport à un équivalent thermique. Donc on économise aussi sur l'assurance, on économise sur les SAV, sur le carburant. Après, il y a une démarche aussi écologique qui est quand même sympa. On va quand même moins polluer l'atmosphère, on va moins embêter les voisins. Pour finir, je trouve que l'île de Tahiti est très adaptée à l'électrique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des autonomies de 300 km. Donc avec nos autonomies, on fait largement un tour de l'île et on rebranche le soir. Voilà.
Et ses motos, Cédric Vallax les a essayées. Il vient de nous rejoindre en plateau pour nous en parler. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour Antoine.
Alors, ça donne quoi l'électrique en moto?
Alors concrètement, je n'ai pu essayer que la SR. C'est le roadster sportif de zéro avec sa batterie de 12,5 kW. Alors je ne vous cache pas qu'au début, ça fait un peu bizarre. Pas de pot d'échappement, mais bon, ça on s'en passe sans problème. Par contre, il n'y a pas de levier d'embrayage ni de sélecteur de vitesse. De quoi perturber un peu quand on monte en selle. Une selle d'ailleurs assez basse puisque du haut de mon 1m65, je touche parfaitement le sol. Ce qui est quand même sacrément sécurisant. En dehors de ça, la SR se prend facilement aux mains. Au guidon, on se sent immédiatement en terrain connu. Mais il faut quand même faire attention au premier tour de roue. En tout cas, il y a quelques habitudes à prendre si on ne veut pas se faire peur. Là, il va falloir être très prudent. C'est à la mise du contact. Une fois la clé enclenchée en position on et la béquille relevée, votre moto est considérée comme démarrée et vous n'entendrez rien, absolument rien. Donc attention en cas de manœuvre et particulièrement à l'arrêt, à la moindre sollicitation de la poignée des gaz, la moto s'élancera. Après, il y a ce poids, c'est présent dans les premiers mètres, et puis ce rayon de braquage franchement décevant. C'est le même sur toute la gamme, et ce n'est pas génial en ville, mais bon, ça, c'est pas propre aux motos électriques.
Et niveau performance, Cédric, ça donne quoi, une moto électrique?
Alors, très franchement, le pilotage de la SR n'a rien à envier à ses consoeurs thermiques, bien au contraire, avec un couple impressionnant et présent sur toute la plage de puissance, la SR pousse fort, très fort. En mode sportif, elle est capable de tomber le 0 à 100 en 3,3 secondes, ce qui est tout bonnement impressionnant. Mais j'avoue que j'en ai pas eu à arriver là, je n'ai pas tenté le diable, je me suis contenté du mode éco, déjà très bien, et d'un mode custom qui, comme son nom l'indique, est entièrement paramétrable. Et ça, c'est quand même sympa, vous prenez votre téléphone, vous vous connectez à votre moto et vous changez tous les réglages que vous voulez. Pour ce qui est de l'autonomie, le constructeur annonce 164 km en mode mixte, largement suffisant à Tahiti.
Alors ça, c'est pour la performance. Et niveau prix, comment se place la gamme Zéro face aux motos thermiques, Cédric?
Alors la SR que j'ai essayé, c'est le modèle haut de gamme de Zéro, et son prix s'en ressent. À Tahiti, elle est vendue 2 350 000 francs avec une garantie de 2 ans pour la moto et 5 ans pour la batterie. Moins puissante, mais aussi moins lourde en raison du poids des batteries. Il y a aussi la S qui est un roadster et l'ADS à vocation tout chemin. Ces deux modèles sont vendus au prix de 1 845 000 francs. C'est cher, même si l'entretien quasi inexistant fera faire des économies. Pour finir, je voudrais juste dire que cet essai de la SR a été un électrochoc et que je recommande aux plus ardents puristes qui devraient tenter au moins un essai avant de se faire un avis, surtout s'ils ont la fibre écolo.
Merci Cédric, on vous sent passionné.
Ça, on va faire turbo, hein. Ça donne des idées au patron. Hein. Je vois pas ça.
Il n'y a pas de problème. Exactement. En attendant, il est 12h19, on est un petit peu tard.